Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Les mots français, les mots arabes se sont rencontrés un jour. L'arabe et le français, lointaines par leurs origines, ces deux langues se sont croisées et influencées. C'est le sujet de notre émission aujourd'hui avec Henriette Walter. Henriette Walter qui a publié chez Robert Laffont et aux éditions du Temps Arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident, un ouvrage écrit avec Bassam Baraké, et Henriette Walter qui nous fait le plaisir d'être dans notre studio aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler des mots français qui sont venus de l'arabe. Mais avant d'arriver en France, je crois que l'arabe a été en Espagne, un peu en Méditerranée.
Exactement. Ils ne sont pas arrivés directement, nous dirons. Il ne faut pas oublier ce que nous avons dit la dernière fois avec les maisons de la sagesse, les traducteurs qui sont arrivés en Espagne pour pouvoir traduire, etc. Et donc, il y a eu cette importance de la langue arabe dans l'Espagne du Sud surtout, enfin la moitié, disons, de l'Espagne vers le Sud, et cette langue qui a beaucoup influencé la langue espagnole. Et c'est souvent par l'intermédiaire de l'espagnol que des mots sont arrivés dans la langue française. Mais ils ne sont pas arrivés uniquement par l'intermédiaire de la langue espagnole, ils sont arrivés aussi par l'intermédiaire du sicilien.
Et qui est une langue que l'on considère comme une langue.
Oui, c'est du latin tel qu'il a évolué en Sicile, de même que l'italien littéraire, c'est du toscan, c'est-à-dire c'est du latin tel qu'il a évolué en Toscane et qui a évolué
la
ensuite
de Dante.
Différemment, la langue de Dante, de Pétrarque et de Boccace. La Sicile, où je crois qu'il faut faire la part belle à Frédéric II Hohenstaufen, qui était donc un empereur germanique, et qui a hérité d'une cape extraordinaire, qui est la cape de son grand-père Roger II. Et la caractéristique de cette cape, c'est qu'elle est rouge, elle est brodée d'or, et elle représente deux lions et deux camélidés. On ne sait pas très bien si ce sont des chameaux ou des dromadaires, parce qu'ils sont derrière. Mais enfin, en tout cas, la chose la plus remarquable, ce n'est pas tellement les animaux, mais le texte qui est écrit tout autour de la cape, et qui est en arabe, en graphie koufique, et qui chante les louanges de la manufacture dans laquelle cette cape a été faite. Et alors, ce qu'il y a, c'est que pourquoi de l'arabe ? Eh bien, c'est que Frédéric II Hohenstaufen savait l'arabe, parlait l'arabe. À sa cour, il y avait des gens qui parlaient arabe, et donc ça a été extrêmement important. Une autre chose qu'il faut dire, c'est que cette cape a été portée par tous les empereurs d'Allemagne jusqu'au XVIIIe siècle et qu'elle est aujourd'hui conservée à Vienne, au musée historique de Vienne. Malheureusement, je ne l'ai pas vue, mais...
Moi, je l'ai vue,
voilà,
en
vous
effet.
Vu, elle est belle. Hein, et c'est assez extraordinaire de voir cette écriture arabe en Sicile. Et donc, en Sicile, il y a eu cette cour où bouillonnait l'esprit de l'Orient et de l'Occident. Et c'est là, peut-être, qu'il faut... Peut-être insister sur le fait que cette langue arabe, eh bien, elle est arrivée par l'intermédiaire de l'Espagne, par l'intermédiaire de la Sicile, parfois par l'intermédiaire de la Provence, parce qu'évidemment, c'était des navigateurs, c'était toute la Méditerranée qui était arabophone d'une certaine manière, et les mots nous sont montés comme ça, tout doucement, quelquefois par le Lombard, quelquefois par Venise, et puis par l'intérieur des terres, disons. Et donc, voilà des mots qui nous sont arrivés dans la langue française et qui ont bien enrichi notre langue. Je voudrais dire une chose là, pour dire que nous avons eu deux vagues d'emprunt du français à la langue arabe. Nous avons eu l'ancienne vague, qui est celle dont je vais parler maintenant, et qui est faite surtout de mots scientifiques, de botanique, de choses pour la médecine, etc., ou pour les mathématiques. Et puis l'autre vague, qui est la vague de la colonisation, avec du vocabulaire non pas scientifique, mais du vocabulaire argotique, un peu comme Kawa, Toubib, Bled, Barda, etc., qui sont des mots qui sont arrivés beaucoup plus tard, qui sont arrivés par l'intermédiaire des soldats et qui, aujourd'hui, sont considérés comme du vocabulaire très familier ou que l'on emploie un peu par dérision, peut-être en riant de temps en temps, en bavardant comme ça, légèrement. Alors maintenant, des mots français venus de l'arabe.
Alors, on des en a exemples, plusieurs. On a envie alors, de sûr, vous entendre nous en donner a, des exemples.
Bien sûr, on en a des centaines, des
alors,
centaines.
D'après votre livre, alors, hein, tout de même, d'après votre livre, le glossaire que vous avez établi, on trouve des mots, donc des mots français qui ont emprunté à l'arabe, de la page 105 à la page 157, comme il y a à peu près 10 mots par page, ça fait 500 mots. Moi, j'ai calculé ça comme ça.
Vous
c'est
avez
bien,
très bien calculé,
à peu
c'est
près
à
500
peu près
mots de notre oui. vocabulaire.
Oui.
Sont, alors, dans ces mots, j'en ai repéré quelques-uns qui sont faciles et courants, mais j'allais dire qu'il y en a d'autres qui sont tout de même des mots savants.
Bien sûr, c'est-à-dire, prenez par exemple l'adobe. Alors, l'adobe, bon, c'est une brique séchée, c'est un mot que l'on ne connaît pas. L'alberge, qui est une sorte d'abricot, mais le mot abricot lui-même, il est amusant. Pourquoi est-il amusant, ce mot-là? Eh bien, c'est parce qu'on dit qu'il vient de l'arabe al-barkok.
Oui.
Or, barkok, en arabe, ça ne veut pas dire abricot. Ça désigne un autre fruit qui est la prune, une espèce de prune. Alors, barkok lui-même avait été emprunté par l'arabe au latin. Praecox, praecox, praecocum, c'est-à-dire le fruit précoce, celui qui arrive en premier en été. Mais c'est un mot latin.
Hmm?
Bon. Mais nous disons pas apricot. Nous disons abricot.
Oui, avec
pourquoi
un
est-ce que nous disons, oui. Pourquoi est-ce que nous disons un B?
Je vous pose la question.
Voilà, c'est parce que ça nous est arrivé par l'arabe. Parce qu'en arabe, en tout cas en arabe classique, aujourd'hui, les jeunes qui apprennent des langues étrangères peuvent prononcer, faire la différence entre P et B. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et donc, c'est forcément passé par une langue où le P ne se distinguait pas du B. Et donc, on ne prononçait pas un peu, on ne pouvait pas le prononcer. On disait « be al-barkok » et donc « abricot » et non pas « abricot » et non pas « apricot ». Ce qui n'est pas vrai de l'anglais. Car en anglais, c'est « apricot » avec
un « p ». On a gardé le « p ».
Donc, ça n'est pas passé par l'arabe pour l'anglais. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il faut voir quels ont été les voyages, comment ça a pu se passer. Donc, un autre exemple qui est la babouche. La babouche, vous savez, ces petits chaussons, ces petites pantoufles ou ces petites savates que je ne sais pas
c'est
comment on peut
à la mode
les appeler.
Moment, oui,
voilà.
Oui.
Alors donc, c'est un mot qui nous vient du persan. Mais évidemment, nous, des mots qui nous viennent de l'arabe, du latin ou du persan ou d'une autre langue avec un P, on n'a aucun mal à les prononcer. Pater, ça devient père.
Mm-hmm.
Hein? Piscionem, ça devient poisson, etc. Donc, on n'a pas de mal. Si on dit babouche et non pas papouche, ben c'est que ça ne nous est pas arrivé directement par le persan. Ça nous est arrivé par une langue dans laquelle le P devenait un B.
L'arabe. L'arabe. Et,
voilà. Et donc voilà pourquoi babouche, on dit que c'est de l'arabe, mais ce n'est pas de l'arabe, c'est du persan. Alors il y en a un autre qui est assez amusant aussi, c'est alambic. Alambic, c'est, on reconnaît là l'article arabe, al.
Al, oui, ça bon. C'est facile. Ça.
Mais ambix, ben ambix, c'est le mot grec. Donc là, on a un hybride arabo-grec.
Ça, c'est intéressant
ben voilà,
aussi.
C'est intéressant aussi. Donc, d'un côté, on peut avoir des mots qui sont passés en arabe, mais qui venaient du latin. D'autres mots qui sont passés en arabe, mais qui venaient du grec. Et qui ensuite, sont arrivés soit par l'intermédiaire du catalan, soit par l'intermédiaire du castillan, soit, comme on disait tout à l'heure, le provençal, etc.
Alors, donc, Henriette Walter, quand on est linguiste comme vous, on prend tous les mots et on en cherche l'histoire, voilà. La structure,
voilà. Et on essaye
pour comprendre,
de comprendre
l'aventure de chacun de ces mots.
Voilà, on essaye de comprendre comment ça a pu se faire, parce que de temps en temps, c'est tellement étonnant. C'est tellement étonnant qu'on ait comme ça un mot. Et que quand on voit que les Arabes vous disent ah « bah, attendez, abricot, c'est barkok, ça n'a jamais été un abricot. » Car aujourd'hui, aussi bien dans le Maghreb que dans le Mashrek, on dit « mesh-mesh ». C'est tout à fait un autre mot pour dire l'abricot. Donc
eux n'utilisent plus leur mot.
Non, parce
voilà.
que ce mot-là...
Ils ne voulaient pas dire abricot.
C'est-à-dire que ce qui se produit quand on emprunte un mot à une langue étrangère, après, on se l'approprie complètement et on lui donne le sens qu'on veut. Voilà. Comme par exemple, si vous prenez aujourd'hui les panini. Qu'est-ce que c'est qu'un panini singulier en français?
Oui. Hein, c'est un panini, c'est un... on dit alors que ça ouais. devrait être un pluriel. Oui,
voilà,
en effet.
C'est un pluriel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un panini?
Eh bien, on s'est approprié.
On s'est approprié, mais pas avec le sens d'italien. Car en italien, un panino, c'est un pain, c'est un petit pain, normalement. Panino ripieno, c'est un pain farci, c'est-à-dire un sandwich. Mais en français, c'est pas n'importe quel sandwich. C'est un sandwich avec une demi-baguette, qui est assez pas trop bien, et qu'on passe au four d'ailleurs. Et en italien, comment on dit? On dit panini caldi. C'est-à-dire que nous, pour eux, il faut dire caldi derrière pour dire
sinon,
que c'est...
Sinon, c'est pas
ça.
Au four.
Sinon, c'est pas... Exact. Et tandis que nous, panini, ça doit être forcément chaud. Voilà.
Donc
voilà,
on voit la langue évoluer, là, cet exemple.
Comment on peut passer d'une langue à l'autre en changeant un petit peu le sens du mot
Alors, Oriental Terre, dans votre livre arabesque, il y a aussi ce que vous avez appelé des récréations, c'est-à-dire des encadrés qui posent des petits pièges ou qui nous amusent. Enfin, donc, il faut retourner le livre pour avoir la réponse. Alors, c'est très amusant. Alors, je vois, par exemple, là, dans la page 113, il y a le mot « aval ». Alors, il y a deux mots « aval » en français, nous dites. L'un d'entre eux vient de l'arabe et l'autre de l'italien.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, Français, avec deux mots différents pour le même?
Et c'est le grand problème de tous ces homonymes, hein, ces homophones, qui viennent de racines différentes. Et donc, évidemment...
Il y a l'aval de la montagne, ça vient de l'arabe. Et l'aval, quand on a donné son aval à quelqu'un financièrement, par exemple...
Ça, c'est l'italien. Donc, on a ainsi beaucoup de mots un petit peu particuliers qui... Il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier des mots qui viennent d'un endroit ou d'un autre.
Enfin, on ne se méfie pas avec vous, Henriette Walter. On est plutôt passionnés et au contraire, on se penche sur tous ces mots sans méfiance. Donc, Henriette Walter, vous nous avez parlé de Idrissi, qui a publié la première géographie de l'Occident. Je voudrais dire à nos auditeurs que cet ouvrage est paru chez Flammarion en 1999. Et vous nous avez parlé aussi de Frédéric II. Alors là, je crois qu'on peut recommander l'ouvrage de Jacques-Benoît Méchin. Cet ouvrage est paru chez Perrin en 1980, mais je crois qu'il vient d'être réédité. On doit trouver ça sur Internet très facilement. Merci beaucoup.
À bientôt.